Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue pour ce nouvel épisode des émissions sociales, les éditions sociales au-delà des livres. Aujourd'hui, on est avec Rachel Renaud. Salut Rachel.
Bonjour.
Pour un livre de Friedrich Engels qui est paru cette année, en 2021, aux éditions sociales, La guerre des paysans en Allemagne, donc que Rachel a introduit et qui a par ailleurs été préfacé par Éric Vuillard. Alors Rachel, est-ce que tu pourrais dire d'abord deux mots pour te présenter, peut-être ce sur quoi tu travailles et comment t'en es venue à t'intéresser aux thématiques qui tournent autour de cet ouvrage et à cet ouvrage en particulier?
Oui, alors je suis au départ ni spécialiste d'Engels, ni spécialiste de la guerre des paysans. En revanche, j'ai travaillé un petit peu sur les révoltes populaires au XVIIe et au XVIIIe siècle en Allemagne. Et effectivement, alors que c'est un texte qui n'est pas forcément extrêmement connu du public français, en Allemagne, c'est un texte absolument essentiel, à la fois dans l'historiographie et puis dans la mémoire collective également. Donc, quand on s'intéresse aux luttes sociales, aux contestations, moi j'avais travaillé en particulier sur les luttes antifiscales, je travaille maintenant sur les révoltes liées à toutes les questions d'approvisionnement, mais quand on s'intéresse de manière générale aux révoltes populaires à l'époque moderne, c'est-à-dire entre 16e et 18e siècle en Allemagne, c'est un texte qui est un petit peu un texte incontournable.
Super. Et alors, est-ce que, dans un premier temps, tu pourrais peut-être revenir sur le contenu exact du livre? Comme tu l'as dit, c'est pas un livre qui est très connu du public français. Alors, qu'est-ce que c'est que cette guerre des paysans dont parle Engels et dont il est question dans ce livre?
Alors, cette guerre des paysans, c'est une très très grande révolte qui se déroule entre 1524 et 1526, avec vraiment un temps fort au printemps 1525. Donc c'est l'un des plus grands soulèvements populaires que l'Allemagne ait connu avec la révolution de 1848, et qui s'appuie, c'est sa première particularité, sur la réforme luthérienne. La réforme luthérienne, on date le début en général de 1517 avec ce qu'on appelle les 95 thèses de Luther. Même si cette réforme-là, elle s'appuie sur tout un mouvement réformateur qui est beaucoup plus large, beaucoup plus protéiforme et puis beaucoup plus ancien. Et Engels, dans La guerre des paysans en Allemagne, retrace les prémices de ces mouvements réformateurs assez divers. Donc elle s'appuie sur la réforme luthérienne. C'est une révolte qui a donc un soubassement théologique.
Parce que, juste en deux mots, Luther, tu peux peut-être en dire vraiment deux mots, c'est déjà une sorte de révolte, même si ce n'est pas une révolte sociale, évidemment, contre l'institution de l'Église catholique.
Oui, alors, c'est un théologien, Luther, qui, donc dans le cadre de ce mouvement réformateur qui est vraiment qui va bien au-delà de la figure de Luther ou de celle de Calvin, qui sont peut-être les deux figures les plus connues, on est dans une période où il y a tout un tas de contestations, de critiques de la manière dont se déroule à la fois la liturgie, des critiques aussi sur le plan théologique. Et la réforme luthérienne, elle va rentrer dans une lutte avec la papauté et l'Église catholique telle qu'elle est instituée pour prôner un retour au texte des Écritures, pour prôner aussi, par exemple, c'est quelque chose qui va être très repris par les insurgés, de faire des prêches en langue vernaculaire, en allemand, en français, etc., et non plus en latin. Donc la révolte, la guerre des paysans, elle se sert en quelque sorte de ces questions théologiques pour revendiquer alors des formes d'équité, voire d'égalité, pour contester le prélèvement seigneurial, pour contester la seigneurie ecclésiastique, tout un tas de choses qui vont évidemment tirer la révolte vers des revendications classiques dans les soulèvements populaires de critique du système féodal. Donc ils vont reprendre par exemple tout un tas de revendications de Luther, l'élection des pasteurs, qu'on appelle les ministres du culte, les prêches en langue vernaculaire, et puis au nom de l'égalité des chrétiens devant Dieu, qui est prôné par Luther, ils vont prendre les armes, ils vont attaquer les châteaux, ils vont refuser le paiement des redevances seigneuriales, etc., etc. C'est une révolte qui est difficile à décrire parce que, comme toutes les révoltes, c'est pas un épisode qu'on pourrait circonscrire dans le temps. C'est tout un ensemble de contestations épars dans l'espace, dans le temps aussi. En fait, c'est une séquence assez longue chronologiquement, avec un temps fort des confrontations qui est celui qu'on retient parce que c'est le plus saillant, qui est ce fameux printemps 1525. Mais en réalité, c'est un phénomène multiforme et puis qui a une très très grande envergure géographique.
Est-ce que tu peux peut-être juste au moins nommer celui qu'on considère habituellement comme le meneur de la révolte, puisque c'est principalement à sa figure qu'Éric Vuillard avait consacré son ouvrage La guerre des pauvres, et c'est aussi pour cette raison qu'on lui avait demandé de préfacer cet ouvrage.
Oui, alors là tu penses à Thomas Müntzer, hein, oui. Qui est un théologien, et qui va effectivement prendre la tête des insurgés dans une région particulière qui est la Thuringe. La guerre des paysans, ça touche tout le Saint-Empire, hein, c'est extrêmement vaste, et c'est vrai que le foyer de la Thuringe est marqué par cette figure de Thomas Müntzer, dont on a gardé quelques écrits, et qui va en fait être rentré, lui, dans une controverse directe avec Luther. Hein. Ils vont échanger des pamphlets, alors dans des termes extrêmement durs, mais qui sont classiques à l'époque dans la littérature pamphlétaire.
Ok, merci. Alors, on a donc cette révolte paysanne au XVIe siècle. Est-ce que maintenant tu peux revenir en quelques mots sur ce qu'en dit Engels, sur la manière dont il l'explique, sur la manière dont finalement il fait un livre d'histoire, et on reviendra ensuite sur le contexte politique et scientifique dans lequel il fait ça, mais en gros, qu'est-ce qu'en dit Engels et est-ce que, au fond, ça vaut encore ? Est-ce que le livre d'Engels, du point de vue de son contenu propre, de ses thèses, a encore une validité historiographique ou non ?
Alors, c'est une question compliquée. C'est un texte de 1850. Le but de cette réédition, qui reprend donc une traduction de 1974, c'était justement de permettre au lecteur, ça s'adresse à un public non académique, mais désireux quand même d'une vraie insertion scientifique du texte, le but c'était de donner les moyens justement de remettre le texte dans son écrin. Et de ne pas en faire un texte éternel, anhistorique, qui serait détenteur d'une vérité à jamais, et en même temps d'essayer de montrer ce qu'il a encore à nous dire. Donc, ma réponse, elle va être un peu en deux temps, puisque à la fois c'est un texte de 1850, et heureusement, la science historique a avancé depuis plus d'un siècle et demi, et en même temps, c'est un texte qui, je crois, est très fondateur pour les sciences sociales, donc a un certain nombre de choses à nous apprendre. C'est un texte qui s'appuie d'abord sur un travail de 1842. Engels ne va pas dans les archives, il reprend ce qui est à l'époque une publication récente, c'est un peu l'actualité historiographique à l'époque, le travail de Wilhelm Zimmermann, qui va vraiment descendre dans les profondeurs de la guerre des paysans, et c'est là que Engels va trouver la chair humaine de son travail. Donc, c'est un texte qui a une démarche qui, à mon sens, est une démarche tout à fait intéressante du point de vue de la méthode de l'histoire, puisqu'il va refuser une histoire qui sert juste à collecter les faits, ou qui a juste pour finalité de raconter ce qui s'est passé. Il essaye de mettre en œuvre, à partir de la matière de Zimmermann, une histoire qui va véritablement interpréter le passé et lui donner du sens. Ça, c'est un premier trait majeur de sa démarche.
Et du coup, est-ce que tu peux dire en deux mots le sens qu'il lui donne ? Le sens, en l'occurrence, c'est-à-dire, encore une fois, les thèses d'Engels à partir de ce matériau-là. Qu'est-ce qu'il apporte, finalement, en termes de compréhension ?
À mon avis, un des apports principaux, c'est d'abord de considérer, c'est vraiment la mise à l'épreuve du matérialisme historique, à l'épreuve d'un cas empirique, hein, on ne plane pas du tout dans les hauteurs de la théorie. Ce qu'il apporte principalement, c'est cette idée que les positionnements idéologiques découlent des positionnements sociaux et de la structuration économique de l'Allemagne du début du XVIe siècle. C'est-à-dire qu'il va s'opposer à toute une tradition historique qui était une pure histoire intellectuelle, une pure histoire des idées, où Luther avait pensé la réforme et voilà, elle s'était mise en place. Non, ce que va montrer Engels dans ce texte-là, c'est que à chacun des groupes sociaux tels qu'ils sont constitués dans cette Allemagne du début du XVIe siècle, va correspondre un type de positionnement idéologique, mais ces positionnements idéologiques, ils ne sont évidemment pas a priori, ils se construisent dans la confrontation et dans la lutte. Donc c'est aussi intéressant pour ce qui est devenu après, longtemps après, ce qu'on appelle l'histoire sociale. Il fonde un peu en quelque sorte l'histoire sociale des idées, c'est-à-dire qu'il va montrer véritablement que les groupes sociaux, ils se constituent dans la confrontation les uns avec les autres. C'est une vision très très relationnelle des groupes sociaux, hein. On n'a pas des groupes qui seraient là, qui se regarderaient et qui se mettraient à lutter les uns contre les autres. On a des relations, et de ces relations conflictuelles naissent à la fois des identités de groupe, des consciences de classe, et des positionnements idéologiques.
D'accord. Alors, ça, un des premiers enjeux donc, du texte, c'est l'enjeu proprement scientifique. Comme tu l'as dit, c'est la constitution du matérialisme historique. On est à une époque où Marx, de son côté, publie dans la même revue ses grands textes sur la France, qui sont aussi des exemples d'application du matérialisme historique. Est-ce que maintenant, tu peux peut-être dire deux mots de la manière dont, finalement, Engels a été relativisé ou critiqué par des historiens plus contemporains, c'est-à-dire dans quelle mesure est-ce que ce qu'il dit est encore valable? Donc tu l'as dit, c'est un texte vieilli, mais en quoi, du coup, est-ce que c'est un texte vieilli?
Alors, il y a deux principaux reproches qui sont faits à la démarche historique d'Engels. Le premier, c'est l'usage de l'anachronisme, puisque Engels fait un va-et-vient permanent dans ce texte entre la situation de l'Allemagne en 1850, après l'échec des révolutions de 48, et ce qui s'est passé en 1525. Moi, je serais assez réservée sur ce reproche, parce que c'est une forme d'anachronisme, en réalité, très contrôlée. Il va comparer, terme à terme, je ne sais pas, par exemple, la situation de la bourgeoisie en 1850 et la situation de la bourgeoisie en 1525, ce qui ne veut pas dire qu'il pense la bourgeoisie de manière éternelle ou plaquée d'une situation à l'autre, hein, pas du tout. Simplement, il analyse les positions relatives des différents groupes sociaux aux deux moments. Il va comparer aussi énormément le morcellement territorial de l'Allemagne en 1525 et l'absence d'unité politique en 1850, qui à l'époque est la question, peut-être une des questions politiques les plus brûlantes. Et il va avoir d'ailleurs là-dessus un positionnement à la fois politique et scientifique assez original. Donc premier gros reproche, l'anachronisme. Je crois qu'il faut le prendre avec précaution parce qu'ici, ça participe de cette volonté vraiment de penser le passé et donc forcément de faire des allers-retours avec le présent pour essayer d'éclairer à la fois le présent et le passé à la lumière l'un de l'autre. Deuxième grand reproche, de ne pas avoir pensé l'autonomie propre des logiques religieuses. Ça, effectivement, c'est peut-être le point sur lequel les historiens sont le plus revenus depuis. Engels pense systématiquement la religion dans la guerre des paysans comme, dit, hein, le masque ou le travestissement des véritables intérêts qui seraient économiques et sociaux. Je crois que cette manière de penser les choses, d'abord, il est lui-même revenu dessus beaucoup plus tard, dans les années 1890, en reconnaissant qu'il n'avait pas accordé suffisamment de place à ce qu'on appellerait aujourd'hui les systèmes de représentation ou les mentalités. Simplement, il n'a jamais eu le temps de remettre l'ouvrage sur le métier. Donc il est revenu lui-même dessus. Et je pense que cette difficulté à prendre en charge les logiques proprement religieuses, c'est aussi en très grande partie lié au contexte. En 1850, donc c'est un homme jeune, il vient donc il a rompu avec le piétisme de son milieu d'origine, première rupture, et puis deuxième rupture politique. Marx et Engels viennent donc de se séparer de Wilhelm Weitling, qui était un tailleur allemand à Paris, et qui professait, lui, un communisme un peu pétri de millénarisme, de christianisme, et ils ont voulu précisément rompre avec cette option-là, explicitement, pour fonder le socialisme dans quelque chose de plus scientifique. Et je pense qu'à la lumière de cette rupture, on comprend aussi mieux les réserves d'Engels vis-à-vis de tout ce qu'il pouvait y avoir de millénariste ou prophétique, par exemple dans la figure de Thomas Müntzer.
Ok, merci pour ce lien entre les enjeux scientifiques et politiques. Je te propose qu'on continue sur ces enjeux politiques, puisque donc, outre la question du matérialisme historique et de la scientificité du marxisme et du mouvement ouvrier sur lequel il est censé influer, il y a une question proprement politique qui est celle, pour Engels, en tout cas qui semble être celle à la lecture, de doter l'Allemagne, finalement, d'une tradition révolutionnaire, puisque Marx et Engels pouvaient avoir l'impression que, contrairement peut-être à d'autres peuples, et on pense évidemment ici aux Français et à la figure de la Révolution française qui a une présence massive au XIXe siècle, on pouvait avoir l'impression que les Allemands sont caractérisés par une absence de tradition de révolte et de tradition a fortiori révolutionnaire. Et ce que t'expliques, c'est que Engels a aussi vocation à faire ça, c'est-à-dire à doter l'Allemagne de cette tradition-là, à dire aux Allemands, vous êtes également les héritiers d'un peuple révolutionnaire, et notamment donc de ces paysans soulevés au XVIe siècle.
Oui, tout à fait, c'est les premiers mots du texte. Le peuple allemand a lui aussi ses traditions révolutionnaires. Il fut un temps où l'Allemagne a produit des hommes qu'on peut comparer aux meilleurs révolutionnaires des autres pays où le peuple allemand fit preuve d'une endurance et d'une énergie qui, dans une nation centralisée, et là on retrouve bien la dispersion politique comme obstacle aux luttes sociales, eussent donné les résultats les plus grandioses, etc., etc. Donc les premiers mots du texte donnent quand même cette perspective qui est fondamentale pour la compréhension du texte. Effectivement, conférer une mémoire collective au mouvement ouvrier allemand, lui rappeler en quelque sorte ses heures glorieuses, même si, il faut quand même le dire, hein, la guerre des paysans a terminé dans un bain de sang. Certains avancent le chiffre de 75 000 morts dans le Saint-Empire qui comptait donc 15 millions d'habitants. Ça fait un ratio quand même considérable. Ça a terminé dans un bain de sang, mais effectivement, c'est une des plus grandes révoltes populaires qu'ait connue l'Europe à l'époque moderne. Donc, il y a cette fonction-là, mémorielle en quelque sorte, avec derrière toujours cette idée, mais qui est très propre au XIXe siècle et qui va durer, qui dure encore d'ailleurs en partie dans la conscience collective allemande et dans l'historiographie de l'Allemagne, cette idée que l'Allemagne est en retard. Cette idée que la France et l'Angleterre ont tracé la voie de la modernité et que l'Allemagne a toujours un train de retard sur la modernité franco-anglaise. Alors ça, c'est aussi une idée sur laquelle on est revenu, mais finalement assez récemment chez les historiens de l'Allemagne, pour dire que non, hein, l'Allemagne a suivi une voie propre qui n'était pas forcément un maintien de l'archaïsme. En tout cas, volonté effectivement dans ce texte de hisser en quelque sorte l'Allemagne à la hauteur du modèle français et anglais, avec évidemment la référence hein, de la Révolution anglaise du XVIIe siècle et puis de la Révolution française de la fin du XVIIIe siècle.
Et alors du coup, la question c'est, est-ce que Engels a réussi à créer cette mémoire collective? Ce que je veux dire par là, c'est t'interroger un peu sur la postérité du texte. Alors en Allemagne, principalement, du fait de cette vocation, pour le dire avec un terme un peu dépréciatif, identitaire du texte au niveau national, mais pas seulement, puisque le texte, plus généralement au sein du mouvement ouvrier international, a peut-être eu une postérité. Donc voilà, on aimerait t'entendre là-dessus.
Oui, alors c'est un texte qui a eu une postérité, dans un premier temps, limitée au cercle militant, c'est-à-dire pas du tout de réception académique. Ça a été diffusé, ça a été lu, ça a été repris, par exemple, par Bebel, si je me souviens bien, par Liebknecht dans leurs histoires de l'Allemagne. En revanche, sur le plan de l'histoire académique universitaire, l'interprétation qui a triomphé, c'est l'interprétation nationale conservatrice, notamment de quelqu'un comme Ranke, Leopold von Ranke, qui vaut comme le plus grand historien allemand du XIXe siècle. Et c'est tout ce qu'on appelle donc les historiens borussiens au service de la Prusse, qui là vont être à la fois luthériens et très hostiles au Saint-Empire romain germanique, catholique et viennois. Donc ils ont une vision, eux, de la guerre des paysans, qui est la caricature qu'on a des révoltes populaires, à la fois dans les textes des élites de l'époque et puis encore largement au XIXe siècle, c'est-à-dire des hordes de paysans armés de faux qui sont sanguinaires et qui vont aller à l'attaque des châteaux. Donc une vision de la révolte comme pur désordre et comme frein, en fait, au développement de l'Allemagne. Il faut attendre, je crois, l'avènement des pays qui se réclamaient du socialisme réel pour que la guerre des paysans d'Engels fasse une vraie entrée dans la discipline historique. Puisque là, on va avoir tout un mouvement d'historiens se réclamant du marxisme, d'historiens, j'entends, académiques, qui vont lire Engels et qui vont l'intégrer notamment à l'histoire des soulèvements populaires.
Peut-être juste une hypothèse, mais je ne sais pas si tu as quelques billes là-dessus. C'est aussi peut-être lié au fait, en tout cas il me semble, que ces pays du socialisme réel, en tout cas les premiers et les grands qu'on pense à l'URSS ou à la Chine, sont des pays à majorité paysanne et dans lesquels le texte d'Engels a eu une certaine postérité, puisqu'il a été question pendant longtemps de réfléchir en marxiste sur le problème paysan, et en réalité des textes des grands fondateurs, il n'y en avait pas tant que ça. Du coup, le texte d'Engels a dû aussi peut-être cette fortune historiographique dans le monde socialiste à la rareté du thème qu'il brasse.
Tout à fait, c'est très possible, même si, Alors, c'est compliqué dans le texte d'Engels parce qu'il y a quand même en permanence cette idée que les masses paysannes sont arriérées. Et qu'elles ne sont pas à la hauteur, par exemple, de leur leader, qui est Thomas Müntzer, qui est tellement à l'avant-garde qu'il doit se traîner ses hordes de paysans mal organisés, etc., etc. Donc il y a un rapport très ambivalent, alors même si les mots les plus durs sont, comme toujours, dirigés contre le lumpenprolétariat, il y a quand même un rapport très ambivalent à la paysannerie. À la fin d'une des préfaces, il dit en même temps que le jour où la petite paysannerie propriétaire prendra conscience d'elle-même, un gouvernement autoritaire ne sera plus possible en Allemagne. Donc il y a quelque chose de très ambigu, je crois qu'il y a un peu un va-et-vient dans son texte hein, sur la place de cette paysannerie dans le mouvement révolutionnaire.
Et alors, dans le monde socialiste, ça a été le cas, et plus spécifiquement en Allemagne, comment est-ce que le texte a été reçu, et comment est-ce que, on pense évidemment à la RDA, il a été débattu ensuite, tu disais qu'il avait pénétré finalement le monde proprement, le monde des historiens à proprement parler, notamment dans les pays du socialisme réel. Du coup, quels ont été les débats dans ces contextes-là ?
Alors, Engels, enfin, la guerre des paysans d'Engels est devenue une référence historiographique majeure pour les historiens de RFA qui se réclamaient du marxisme, et puis, évidemment, en RDA. Le problème étant qu'en RDA, c'est devenu, en quelque sorte, il a été très associé à une histoire officielle, dont un certain nombre d'historiens ont voulu, en partie tout à fait légitimement, bien sûr, s'affranchir. Et c'est devenu, du coup, une référence un petit peu ambivalente, d'autant plus que tous les historiens de RDA, y compris ceux qui faisaient des travaux d'excellente qualité après la réunification, ont été largement mis de côté hein, et ont été remplacés, y compris dans leur chair institutionnelle, par des historiens de RFA. Donc il y a eu un peu ce double mouvement où ça a été une référence majeure pendant plusieurs décennies d'après-guerre et où c'est devenu ensuite un peu une référence à la mémoire d'année. Moralité, l'interprétation qui a triomphé dans le monde académique allemand et qui est encore la référence majeure sur laquelle tout le monde s'appuie aujourd'hui, c'est celle de Günther Franz, qui est un ancien nazi, et qui propose une histoire de la guerre des paysans qui est extrêmement marquée par l'idéologie völkisch. Hein, il en fait une révolte du peuple allemand pour les anciens droits.
Juste völkisch, si tu peux
völkisch,
traduire.
C'est distinct de l'idéologie nazie, c'est une idéologie réactionnaire qui entend, alors souvent antisémite, et qui entend mettre l'accent sur le peuple allemand comme race.
Donc le folk, en fait, völkisch, juste pour les auditeurs non germanophones, j'espère qu'il y en aura. Folk est la traduction allemande de peuple, avec peut-être des connotations qui sont présentes en français, mais qui le sont moins, et notamment la connotation ethnique, ou voire raciale.
Raciale, oui, c'est ça. C'est-à-dire que folk, ça oscille entre la connotation qu'on a en français du peuple comme populaire, et puis du peuple comme race.
Merci pour cette historiographie est-allemande. On va maintenant peut-être passer à des questions un peu plus compliquées ou un peu plus ouvertes. C'est la question des enjeux actuels du texte d'Engels, puisque, comme tu l'as dit, bon, il est relativement ignoré. Je ne sais pas si, au cours de tes études d'historienne, tu as eu à le lire. J'imagine que non, ou alors plutôt pour faire l'histoire du mouvement ouvrier allemand et de Marx et Engels que pour l'histoire du mouvement paysan en Allemagne au XVIe siècle à proprement parler. Mais du coup, se pose la question des enjeux actuels. Alors moi, j'en vois deux, mais je ne sais pas dans quelle mesure est-ce qu'il est possible de faire résonner le texte avec eux. Le premier, et ça a été rendu manifeste par le texte de Vuillard, « La guerre des pauvres », qui se basait sur ce récit de Engels et qui a résonné en France avec le mouvement des Gilets jaunes. Le lien, c'est quoi ? Eh bien, c'est un mouvement populaire, finalement, sans véritable organisation pour le tenir, un mouvement dans un monde qui est en plus un monde fragmenté. Alors, c'est plus, bien sûr, le monde fragmenté du XVIe, mais une des revendications des Gilets jaunes, ou en tout cas un des symptômes du mouvement des Gilets jaunes, c'était la fragmentation de l'univers géographique, les trajets en voiture, etc., le fait que l'État, s'il existe encore, tend à disparaître dans le quotidien des gens. Et du coup, il y a cette question, premièrement, de ce qu'est un mouvement populaire, finalement, dans un monde fragmenté, aussi bien en termes d'institutions étatiques qu'en termes d'institutions politiques, militantes, partis, syndicats, etc. Et le deuxième enjeu, on y reviendra peut-être après, c'est celui du rapport entre les soulèvements populaires et la question religieuse, puisque comme tu l'as dit, Engels a eu tendance à rabattre cette question-là sur une pure détermination, disons, socio-économique, en faisant de la religion le simple habit d'intérêt de classe conflictuel, etc. Et peut-être que voilà, il y a aussi quelque chose là-dedans sur cette question du lien entre les mouvements de révolte, pour ne pas parler des mouvements révolutionnaires, et l'aspiration religieuse en tant qu'elle peut être un fouet finalement à la révolte. Donc peut-être d'abord sur la question de ce monde fragmenté et des mouvements sociaux qui lui correspondent.
Alors oui, sur ce premier point, le texte d'Éric Vuillard de La guerre des pauvres est très beau, mais moi je vais faire une réponse d'historienne qui sera une réponse beaucoup plus prudente. Comme pour tous les mouvements populaires d'Ancien Régime, il n'y a pas effectivement dans La guerre des paysans d'organisation politique au sens où on l'entend depuis le 19e siècle et la naissance du mouvement ouvrier. En même temps, ces soulèvements, ils sont organisés de manière extrêmement minutieuse et de manière très ritualisée, on retrouve toujours un peu la même chose. Donc d'abord, ils s'organisent sur la base d'institutions qui existent, à savoir la communauté d'habitants, le corps de métier, le quartier dans les villes, parce que je ne l'ai pas dit, mais la guerre des paysans, c'est pas seulement une guerre de paysans, en réalité, il y a aussi beaucoup de petits artisans des mondes urbains. Donc on a des structures qui préexistent, qui sont mobilisées dans la contestation, même si dans l'action collective, elles vont être transformées par la mobilisation. Ce qui permet la comparaison, effectivement, c'est, je crois, cette idée que il n'y a pas, dans ces mouvements-là, au départ, de conscience d'appartenir à un groupe qui fait unité. Ça, c'est peut-être effectivement un point sur lequel on voit les similitudes, parce qu'il n'y a pas de tradition contestataire qui soit tellement à cette échelle-là. C'est vrai pour les Gilets jaunes, c'est vrai pour la guerre des paysans. Dans la contestation, et c'est vrai de beaucoup de luttes en réalité, naît la conscience de faire groupe, de faire corps autour de quelque chose, et c'est là qu'on s'invente des symboles, des références communes, des couleurs communes, des étendards et des mots d'ordre. La comparaison, je crois qu'elle a été aussi beaucoup utilisée, alors évidemment pas par Éric Vuillard, mais dans l'espace médiatique, pour discréditer le mouvement. Je pense notamment à la comparaison des Gilets jaunes avec les Jacqueries, qui précèdent la guerre des paysans.
Et qui sont des révoltes paysannes, c'est le terme qu'on emploie en France notamment.
Oui, alors il y a une grande révolte en 1358 en France, qui est qu'on appelle la grande révolte des Jacques, mais effectivement c'est devenu un terme péjoratif pour désigner ces révoltes d'Ancien Régime. Or je crois que très souvent, quand on compare, c'est parce qu'on compare sur la base d'une image fausse de ces révoltes d'Ancien Régime, à savoir ce cliché, justement, dont je parlais tout à l'heure, de horde sanguinaire, d'un peuple irrationnel et bestial qui va déferler de manière violente. Gérard Noiriel a très bien montré, dans un certain nombre d'interventions publiques, que la comparaison à ce titre-là ne fonctionnait pas. Et effectivement, pour comparer, je crois qu'il faut d'abord sortir de cette image-là, et un peu comme Éric Vuillard l'a fait de manière littéraire, rentrer dans la chair de la contestation, c'est-à-dire des gens qui cherchent à s'organiser à une échelle nouvelle en se dotant de références communes. Dans le cas de la guerre des paysans, évidemment, c'est la réforme luthérienne qui permet tout d'un coup de fédérer des contestations qui jusque-là étaient dispersées et n'avaient pas de vecteur commun.
Mais alors du coup, ce que tu dis là, je le comprends moi comme une forme d'aval donné à Engels sur le fait que finalement la traduction religieuse n'est qu'une traduction, au sens où ça a été la réforme luthérienne, mais ça aurait pu être tout autre chose, puisque ce que tu me dis, enfin en tout cas ce que j'entends dans ce que tu me dis, c'est que l'identité religieuse du mouvement a été simplement la réponse à une recherche de référents communs. Mais que, et du coup, c'est pour faire le lien avec le deuxième enjeu, est-ce qu'il y a plus dans la référence à la réforme luthérienne que voilà, un simple signifiant commun commode qui aurait permis d'unir les gens autour d'une identité partagée ?
Je serais un tout petit peu plus nuancée sur ce point-là, parce que je crois que si on essaye de prendre au sérieux ce que disent les gens sur leur révolte, ça se dit dans ce langage-là. Donc c'est indissociable. On ne peut pas, je crois, en faire un simple prétexte. C'est une manière de formuler la contestation. Un exemple, il y a un grand manifeste qui est très connu des paysans insurgés en 1525, qui s'appelle les 12 articles. Donc je rappelle, hein, ces paysans, ils s'organisent, ils élisent des représentants, ils font des assemblées et ils rédigent des textes. On est très très loin de l'image simplement de hordes de gens avec leurs piques et leurs faux qui vont déferler sur des châteaux. Et chaque article de ces 12 articles est légitimé par les Écritures. Donc on ne peut pas faire comme si la religion, à ce moment précis, n'avait pas été le terreau essentiel de la lutte des classes. C'est dans ces mots-là que peut se dire la contestation. Je crois qu'on ne peut pas vraiment en faire un simple prétexte comme le fait Engels. Je donne un exemple, l'article 3 des 12 articles, hein, pour montrer à quel point c'est au nom de la Bible qu'on se révolte en 1525. Il est lamentable que nous soyons considérés comme des serfs, vu que le Christ, en donnant son sang, nous a tous sauvés et rachetés sans exception, du plus humble au plus grand. Nous voulons être absolument libres, comme nous l'apprend l'Écriture. Nous devons cependant obéir de bon cœur à toute autorité élue ou instituée par Dieu, mais ils vont rajouter tout de suite une réserve, en tout ce qu'elle ordonne de convenable et de chrétien. Donc, évidemment, on utilise l'Écriture qui est la légitimité, l'Écriture sainte qui est la légitimité absolue pour obtenir des concessions de la part des autorités ou pour essayer d'infléchir un peu la domination politique, sociale et économique dans un sens un petit peu plus favorable. On mobilise l'Écriture sainte parce que c'est ce qu'il y a de plus incontestable et de plus légitime. J'en ferai pas pour autant un simple prétexte. On peut évidemment se dire que c'est purement stratégique, que c'est purement un positionnement tactique, mais en réalité, on n'en sait rien.
Mais en fait, c'est peut-être aussi là qu'on revient à ce que tu disais plus haut, c'est-à-dire que Engels, c'est pas un simple historien, c'est aussi un militant, et peut-être que la spécificité du militant par rapport à l'historien, c'est de questionner ce discours, cette idéologie sous-jacente à la révolte, du point de vue de son adéquation. Parce que peut-être que Engels, c'est aussi ça, c'est-à-dire est-ce que véritablement cette idéologie religieuse était adéquate à la révolte? Et je pense que là, effectivement, on change de domaine, c'est plus l'historien qui parle, puisque la question qui est posée, c'est une question d'adéquation politique et de savoir s'il est possible de faire de la politique à cette époque-là, voire plus généralement, avec des mots d'ordre religieux, ou en tout cas ceux-là, et si, est-ce qu'en réalité, les insurgés ne se fourvoient pas en invoquant la religion pour quelque chose d'émancipateur, alors même que, comme tu le disais, pour Engels et Marx à l'époque, c'est considéré comme finalement un instrument idéologique entre les mains de la bourgeoisie.
Tout à fait, je crois que c'est effectivement là qu'on peut interpréter sa position en la rapportant au contexte politique dans lequel il est à ce moment-là. Cela étant, même sur la figure de Münzer, dont il fait cette avant-garde très éclairée. Bon, Münzer est un théologien, avant tout, et un théologien qui controverse avec Luther. Donc, c'est quand même difficile de dégager entièrement cette révolte de son soubassement religieux. C'est aussi sa spécificité majeure. Moi, les contestations sur lesquelles j'ai travaillé, et les grandes révoltes sur lesquelles j'ai travaillé au XVIIe, XVIIIe siècle, sont des révoltes qui ne mobilisent plus du tout un langage religieux, par exemple. Elles sont complètement sécularisées. On parle de l'impôt, on parle de l'empereur, mais il n'y a plus du tout ce langage religieux qui est aussi spécifique à un moment parce qu'il permettait de revendiquer des choses extrêmement larges comme l'égalité, des concepts qui deviennent absolus comme ça, l'égalité, la liberté, grâce à l'écriture.
D'accord. Et cette traduction religieuse des conflits a eu aussi une postérité, on n'y reviendra pas là pour des raisons de format et de temps, mais c'est aussi ce qui fait l'intérêt du livre d'Engels, c'est de raisonner finalement avec des choses comme la théologie de la libération ou d'autres formes de contestation proprement religieuse des inégalités sociales, et le livre permet voilà, de poser quelques bases autour de ces discussions-là. Eh bien Rachel, merci beaucoup pour l'entretien.
Merci.
Je vous rappelle que l'ouvrage d'Engels, comme tous nos ouvrages, est disponible en librairie puisque les ouvrages des éditions sociales ne sont plus vendus sur Amazon. Donc on vous invite vraiment à fréquenter les librairies que vous avez autour de chez vous pour les faire vivre, et notamment, mais pas seulement, en achetant les ouvrages des éditions sociales. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode des émissions sociales. Au revoir. Spectre.